Laudetur Jesus Christus.
La guerre, violemment de retour dans la bande de Gaza, l'ensemble de l'enclave palestinienne a été bombardée cette nuit. Plus de 400 personnes ont été tuées. La Grèce n'échappe pas à la course à l'armement. Une refonte totale de l'armée est annoncée pour ce pays pourtant membre de l'OTAN. Des négociations dans l'impasse avant même de commencer. Dans une volte-face, le mouvement M23 a annoncé ne plus se rendre en Angola pour des discussions de paix dans l'Est de la RDC. Nous retrouverons notre correspondant à Kinshasa. Et puis enfin, l'état d'urgence à Lima, la capitale péruvienne, depuis ce matin est pour un mois.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour à toutes et à tous. Le chaos, la douleur et les larmes de retour à Gaza. Au moins 413 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens qui ont repris cette nuit vers 2h du matin. Les victimes sont en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, selon la défense civile. Les premières images montrent des ambulances sirènes hurlantes, des corps éparpillés dans les rues, des victimes en couverture de survie devant des hôpitaux qui ne sont pas en état de fonctionner. L'armée israélienne ordonne aux Gazaouis d'évacuer les zones frontalières avec Israël, ce qui laisse présager le pire. À Jérusalem, Valérie Ferron.
La reprise des bombardements israéliens intensifs ont fait des centaines de morts et plus de 1000 blessés en quelques heures durant la nuit et en matinée, laissant enfants et adultes dans la panique et le désespoir le plus total. La force des explosions ont été telles que des témoins ont signalé avoir vu des personnes être projetées depuis des appartements où des familles s'abritaient. Beaucoup de corps ont été totalement déchiquetés et des familles entières balayées alors qu'elles se trouvaient sous leur tente ou à bord de voitures. Ajoutant à la terreur, l'armée israélienne a repris sa politique de déplacement massif des civils, ordonnant aux familles dans des zones des régions nord et sud d'évacuer immédiatement. Les hôpitaux, encore capables de fonctionner, sont à nouveau submergés par le nombre de blessés, sans pouvoir apporter les soins appropriés. Les équipes de secours, privées notamment de carburant pour leurs véhicules, ne peuvent pas atteindre les victimes. Beaucoup de personnes restent donc coincées sous les décombres. Parmi les personnes tuées, on compte des responsables de différents ministères de la bande de Gaza. Le Hamas, de son côté, a annoncé qu'un Israélien détenu avait été tué et deux autres blessés par ces bombardements. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et les réactions sont nombreuses suite à ce cessez-le-feu volé en éclats. La Jordanie parle de frappes israéliennes barbares, l'Iran de génocide. Même terme pour la Turquie qui dénonce une nouvelle phase dans la politique génocidaire, je cite, d'Israël. Le chef de l'ONU se dit lui choqué. La commissaire européenne à l'aide humanitaire appelle à mettre un terme à cette escalade. Et Israël, de son côté, annonce que les bombardements se poursuivront tant que tous les otages israéliens retenus dans l'enclave palestinienne n'auront pas été libérés. Et en miroir à cette actualité, dans une lettre partagée ce matin envoyée à un journal italien, le pape rappelait l'absurdité de la guerre. Le pape François qui appelle à désarmer les esprits mais aussi désarmer la terre. Une lettre à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Mais en Europe, c'est bien la course à l'armement qui domine. 26 milliards d'euros. C'est ce que la Grèce va investir pour renforcer sa défense. Et cela consiste en une refonte des armées d'ici l'année prochaine. C'est la plus grande réforme des armées de l'histoire de la Grèce, membre de l'OTAN. Les précisions à Athènes d'Alexia Kefalas.
Nikos Dendias, le ministre grec de la Défense, serait prêt à débourser 26 milliards d'euros afin de faire face à, je cite, une réalité différente et moderniser rapidement ses forces pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Cette plus grande réforme des armées de l'histoire du pays se fera en 5 axes, dont l'un, baptisé bouclier d'Achille, qui doit renforcer le système de défense antimissile et antiaérienne. Selon la presse grecque, Athènes négocie même avec Israël pour que le bouclier comprenne aussi des systèmes anti-drones. Priorité sera également donnée à la acquisition de 20 avions de combat de type F-35 pour lesquels un accord a déjà été signé. Les chasseurs devraient survoler le ciel grec en 2030. En raison des tensions de très longue date avec sa voisine, la Turquie, la Grèce est l'un des 4 pays de l'OTAN qui consacre plus de 3% de son produit intérieur brut aux dépenses de défense avec un budget annuel de 6,13 milliards d'euros contre 3,6 milliards d'euros en 2024. L'annonce officielle du nouveau programme d'armement se fera le 2 avril prochain devant les députés. À Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
Après la Lituanie, c'est au tour de la Pologne, mais aussi de l'Estonie et de la Lettonie de faire un pas vers le retrait du traité interdisant les mines antipersonnelles. Une décision qui répond à des raisons de sécurité, estiment les chancelleries. La convention d'Ottawa de 1997 interdit l'emploi, le stockage et la production de mines antipersonnelles, des armes particulièrement létales, dont plus de 80% des victimes sont des civils. Une course à l'armement en Europe à laquelle n'échappe pas l'Allemagne. Le futur chancelier allemand, Friedrich Merz, estime que son projet d'augmentation massive des dépenses militaires n'est rien de moins que le premier grand pas vers une politique et une communauté européenne de défense. Et cela devrait inclure des pays non membres de l'Union européenne comme le Royaume-Uni ou la Norvège. Elle devait avoir lieu à partir d'aujourd'hui en Angola, mais le M23 refuse finalement d'y participer dans une volte-face annoncée hier soir. Le conflit dans l'est de la RDC, riche en ressources et frontalier du Rwanda, s'est pourtant intensifié ces derniers mois. Et cette énième tentative de médiation paraît déjà compromise. À Kinshasa, ça, Pascal Moulégois.
Bruxelles a sanctionné presque tous les dirigeants du mouvement rebelle ainsi que quelques responsables rwandais. Des sanctions qui, d'après le M23, compromettent gravement les dialogues directs et empêchent toute avancée. L'attitude de l'Union européenne est qualifiée par les rebelles d'incompréhensible, équivoque et ambiguë. Et par conséquent, les rebelles disent ne plus pouvoir participer aux négociations. Un ordre d'émission avait pourtant été établi. Signé par Corneille Nangaa, le leader de la rébellion, il prévoyait une délégation de 5 personnes conduite par Benjamin Bonipa, secrétaire exécutif de l'AFC M23. C'est un nom bien connu car inscrit sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne depuis juillet 2024. Les 4 autres membres annoncés étaient des juristes et des administratifs et un responsable militaire. Leur itinéraire était défini, passage par l'Ouganda, vol affrété par l'Angola, séjour de 4 jours à Luanda et retour prévu à Goma le 21 mars. La médiation, qui semble ne pas être au courant de ces revirements, affirme dans un communiqué que toutes les conditions sont réunies pour que les négociations directes débutent ce 18 mars comme prévu. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
Le Niger se retire de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une décision partagée dans une lettre envoyée aux ambassadeurs hier. Le pays avait déjà été suspendu par l'OIF après le coup d'État contre le président Bazoum en juillet 2023. Mais cette fois, c'est bien un retrait pour le Niger qui compte 13% de francophones, un peu plus de 3 millions d'habitants et où l'Organisation internationale de la francophonie avait été créée. C'était en 1970. Le Pérou déclare l'état d'urgence dans sa capitale Lima et cela commence aujourd'hui pour un mois après l'assassinat par balle d'un chanteur populaire sur une autoroute de la ville. Après son concert, il a été visé par une bande criminelle. Le gouvernement annonce déployer les forces armées en soutien de la police dans toute la capitale. Sur place, Martin Chabal.
Le Pérou a commencé sa semaine en deuil après le décès du chanteur populaire Paul Flores. Nouvel assassinat dans la capitale péruvienne qui a fait réagir le gouvernement, qui décide donc de déclarer l'état d'urgence pour lutter contre le crime organisé. Une décision radicale mais qui ne convainc pas les Péruviens, toujours inquiets de la hausse des homicides dans le pays. Rien qu'au mois de janvier, près de 200 personnes ont été assassinées au Pérou, c'est 3 fois plus que les chiffres de 2017. Et depuis plusieurs mois, de plus en plus de Péruviens déplorent l'inactivité du gouvernement dans une situation qui se tend à chaque nouvel homicide. Ils ont particulièrement dans le viseur Juan José Santibáñez, le ministre de l'Intérieur, responsable de la sécurité dans le pays. Il est d'ailleurs visé par une motion de censure par le camp d'opposition au Congrès depuis lundi, mais les anciennes procédures déjà engagées à son encontre étaient restées sans succès, et c'est ce qui pourrait se passer avec celle-ci aussi. Le gouvernement tente de sauver sa crédibilité sur le sujet de l'insécurité, alors que seulement 4% des Péruviens soutiennent le pouvoir en place. Une réforme du système pénitentiaire est aussi en discussion et aurait pour but de décourager les bandes criminelles. Martin Chabal pour Radio Vatican. À Lima.
Et dans un communiqué partagé hier soir, l'épiscopat péruvien a dit constater avec inquiétude l'augmentation constante des cas de violence et de décès dans tout le pays. L'épiscopat péruvien qui rappelle son engagement absolu à favoriser une culture de la paix, de tolérance et de justice. Merci pour votre écoute. L'information revient en direct de Rome tout à l'heure à 18h. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité du pape François, de l'Église et de l'Église dans le monde sur notre site internet vaticannews.va. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi.